Chapitre 4. Jalousie. En face le pavillon, à l'angle de la route de Corbeil et d'une ruelle de campagne descendant à la Seine entre les vignes, une borne fontaine, bien connue des routiers avec son gobelet en fer blanc retenu d'une chaînette, s'accote au mur d'un ancien parc. Le premier son perçu de Richard, quand il sortit d'une léthargie dont il n'eut pu apprécier la durée, fut le tintement de ce gobelet que le passant rejette après s'en être servi. Il sourit à ce bruit connu depuis l'enfance, ouvrit les yeux et, de son lit, dans le demi-jour de la chambre aux rideaux tirés, aperçut, reflété au blanc du plafond, comme sur le drap d'une lanterne magique, l'ombre microscopique d'un cheminot rechargeant sa besace après une halte à la fontaine du coin. « Oh, la route !» fit-il tout haut, heureux de se souvenir retrouvé. Mais en même temps, lui revenait la mémoire de son désastre. Il eut froid, il eut peur, et d'un mouvement puéril referma les yeux, comme pour entrer dans l'anéantissement, l'oubli de tout. Mais ses yeux fermés voyaient, enfouis sous les draps, ses oreilles entendaient, et toujours la même sinistre chose, sa mère à l'entrée de la charmille lui criant « Ta femme est partie !» Par une étrange anomalie, dans cet être très simple et très doux, mais tout instinctif, la jalousie dont il devait tant souffrir plus tard, au point de servir de type à cette étude passionnelle, ne lui fit pas sentir tout de suite ses griffes et son bec à serrer de cruelles chimères. Quand il sut avec qui sa femme était partie, Charlet, son matelot, comme le petit s'appelait lui-même, l'a mis le plus contre son cœur. Certes, le coup lui sembla rude. Blessure de ventre, sournoise, de bas en haut, mais dont l'inattendu atténua d'abord la souffrance. Lui, c'est lui! Un rouge furtif sur sa pâleur de fièvre, une buée voilant ses yeux de bon chien, ce fut tout. Le mal de jalousie vint plus tard, le frappa en retour, et alors jusqu'au délire. Pour le moment, tout sombrait dans le grand trou noir ouvert à ses pieds, et sur lequel il se penchait sans comprendre. Parti. Pourquoi? Que lui avait-on fait? Elle ne l'aimait donc pas, lui qui l'aimait tant? Assis près de sa fenêtre, devant cet horizon familier où tout lui rappelait Lydie, l'unique pensée de sa convalescence fut cela. Que s'est-il passé? Il aurait voulu lire la lettre qu'elle avait écrite en partant. Mais la mère l'a cachée, cette lettre. Un autre jour, plus tard, quand il serait guéri. Il y avait là-dedans des choses qui lui feraient trop mal, pourraient le frapper d'une nouvelle attaque. Elle en serait trop contente, la gueuse. En réalité, la lettre de Lydie accusait si fortement la belle-mère, avec un tel accent de révolte et de sincérité, que celle-ci reculait devant le désespoir et peut-être la colère de son fils, amoureux comme au premier jour, après 8 ans de mariage. Et c'est la constance de cet amour dont s'effarait surtout la bonne femme. Pour elle, ainsi que pour tant d'autres Françaises, bien plus mère qu'épouse, reportant sur l'enfant la tendresse refoulée dont le mari n'a pas voulu ou pas su profiter, la passion ne comptait que comme un accessoire de roman ou de théâtre, et la vie à deux n'avait été qu'une plate association. Comment se serait-elle expliquée la violence de ce désir qu'elle lisait dans les yeux de son fils, aussi indomptable après des années qu'au temps où ses larmes en feu giclaient sur le vitrail de l'isba? « Vraiment, je ne vous comprends pas, vous autres hommes !» lui disait-elle en guidant et soutenant sa première promenade dans le parc, une rayonnante après-midi d'août. « Vous pouvez aimer et mépriser à la fois. Ainsi, toi, tu penses encore à cette coquine qui t'a trompé, qui vit avec un autre et te rend la risée du pays. » La mère sentait trembler le bras qui s'appuyait au sien, mais continuait, la voix dure, des yeux d'opérateur implacable. « Toute leur histoire est connue, figure-toi bien. Leur rendez-vous se donnait dans notre maison. Ils venaient la nuit par-dessus le mur. »« Entrons là, maman, je suis brisée !» murmurait Richard en poussant la porte de la petite maison de bois. Comme il tombait sur le divan de tout son poids découragé, les ressorts éreintés crièrent et la même pensée fit rougir en même temps la mère et le fils. pour ta fierté, pour ton nom, cher enfant. Ne pense plus à cette femme. Promets-le-moi. » Elle dérangea un coussin pour s'asseoir près de lui. Des épingles à cheveux, oubliées là, glissèrent sous sa main. Elle les ramassa, les jeta dehors avec dégoût. Puis suivit un lourd silence par lequel une hirondelle entra par la baie large ouverte, effleura les poutres d'un « frrt » d'éventail déployé et repartit en caprice de femme. « Promets-le-moi » répétait la mère très émue. Richard répondit « Eh bien oui, je te le promets, mais à une condition. Je veux savoir, je veux que tu me dises où ils sont. » Elle eut peur d'avoir trop appuyé sur la fibre d'orgueil et de colère. « Savoir où ils sont? Pourquoi? Que veux-tu faire ?»«
Rien, simple curiosité. »«
Mais je ne le sais pas, je t'assure. » »«
Bien, les gens de Grosbourg sont rentrés. Là, j'aurai une réponse. »
Madame Fénigan, dans la crainte d'un scandale, promit d'aller elle-même chercher des nouvelles chez les d'Alcantara. Elle en serait quitte pour une migraine, comme chaque fois qu'elle mettait un chapeau. Deux jours après, descendant de voiture devant l'immense perron de Grosbourg, elle y trouvait la duchesse en très intime et vive causerie avec M. Alexandre, dont le salut affecté ironiquement fit froid au cœur de la visiteuse.
« Je vous reverrai, Alexandre !»
jeta la duchesse en introduisant Madame Fénigan dans un petit salon d'encoignure tendu de soies anciennes.
« Qui nous vaut cette bonne visite, Madame la notaresse ? » dit-elle d'un ton de bienveillance hypocrite et hautaine.
La notaresse, si bien apostrophée de son titre, parut suffoquée de cet accueil, avec tout ce qu'il y avait de terrible et d'encore inexprimé entre elles.
« Mon fils Richard a manqué mourir, madame. »
« Ah, vraiment? Tant que cela? J'ignorais? »
« Comment? Vous ne saviez pas que mon pauvre enfant... »«
Mon Dieu, ma chère, ce sont des sujets si délicats !»
Elle promenait un flacon sous son nez de courbe hébraïque.
« Ce sujet vous touche d'assez près pourtant, » murmura Madame Fénigan. Et tout d'un coup, dans l'explosion de sa rancune maternelle...
« Ah, madame la duchesse, c'est un grand malheur que mon fils ait rencontré le vôtre !»
La petite tête aux cheveux citrons se dressa avec un mauvais rire.
« Vous ne prétendez pas accuser Charlexie de l'enlèvement de votre bru ? Mon fils a 18 ans à peine, il était encore au collège !»
Une porte s'ouvrit, montrant sur l'enfilade des pièces de réception la triste figure creusée du général-duc, péniblement appuyé au bras de son fauteuil pour saluer Madame Fénigan de ses paroles insolentes.
« J'ajouterai, chère madame, que notre innocent est parti en empruntant 100 000 francs qui nous coûteront bien le double, tandis que sa Danaé se vante d'avoir fui tout juste avec la seule chemise qu'elle portait sur le dos. »
Pendant qu'il parlait, un antique trumeau à glace au-dessus de la cheminée du petit salon reflétait le tremblement de sa longue moustache tordue d'un sourire enragé et le geste désespéré que maître Jean, derrière le grand fauteuil, dessinait avec l'archet de son violoncelle. Madame Fénigan s'était levée, très digne, et dit en sortant
« Souhaitez à votre fils de ne pas se trouver en face du mien !»
Le général tressaillit, mais la duchesse le rassura.
« Laissez donc, l'un en Seine-et-Oise, l'autre en route pour les Indes, ils ne risquent pas de se rencontrer. »
Pourtant, sitôt Madame Fénigan en voiture et la voiture au bout de l'avenue, on appela Monsieur Alexandre.
« Mon général ?»« Et toujours l'œil sur le Richard, tu entends? S'il quittait le pays, file derrière et tiens-nous au courant. »
La duchesse ajouta.
« Quant aux dépenses de mon fils, quoi qu'il vous demande, adressez-vous directement à moi. »
L'ancien maître d'hôtel s'inclina jusqu'à terre et sortit de Grosbourg, macabre et pimpant. À pas furieux, dans l'encolure remontée de ses larges épaules, Richard, pendant ce temps, arpentait le salon des Uzelles en écoutant le récit de Madame Fénigan, écrasée d'indignation au fond d'une bergère, son chapeau à bride sur les genoux. Il patienta jusqu'au bout du récit, les dents serrées. Enfin, s'arrêtant devant sa mère, il la souleva, la prit contre son cœur et dans un débord de tendresse assez rare chez ce concentré, « C'est fini maintenant. Tu as raison, cette femme est indigne. Qu'elle aille où elle voudra, nous n'en parlerons plus jamais. » Il le disait dans la sincérité de sa colère, torturé de cette idée que Lydie avait enlevé, débauché un collégien. Pour la première fois, il sentait le grotesque et l'horreur de l'aventure, s'étonnant d'avoir eu si longtemps près de lui sans le savoir, une malade, une hystérique, appelant sa mère en témoignage, et la mère appuyée, insistée, ravie de sa place reconquise.
« C'est notre faute, vois-tu, mon fils ? Nous sommes allés la chercher aux enfants trouvés. On s'évite les ennuis d'une famille, mais la femme vous arrive sans antécédent ni répondant, enveloppée de mystères, d'inconnus, de toutes les tares possibles de l'hérédité. Cette fille se prétendait de sang noble. On lui avait mis cela dans la tête au couvent. En tout cas, sa noblesse roulait bien des vilenies dans ses veines. Embrasse-moi, va, et n'y pensons plus. »
C'est ce qu'il essaya de faire, brisant son cœur de fatigue pour tomber chaque soir à poing fermé dans le sommeil. Sans doute, s'il eût épousé une femme d'intérieur comme sa mère, toute consacrée à son fruitier, ses armoires, son linge et ses confitures, Richard se fût distrait de sa douleur dans la vie du dehors. Mais Lydie, sans enfant, sans maison à surveiller, accompagnait partout son mari, chassait, pêchait à ses côtés, et quand il voulut fuir son souvenir, il le retrouva dans toutes ses courses, vivant et présent comme l'ombre de son bonheur évanoui. Son premier coup d'épervier, après le départ de sa femme, il le jeta entre Rise et Juvisy, à quelques mètres du rivage. L'eau, très calme à cet endroit, lui montrait l'image renversée d'une auberge de carrier, dressant solitairement au ras du chemin de halage son grand toit de chaume et ses hautes fenêtres à tout petits carreaux.
« Sait-il que je suis trop dans les herbes ?» demanda Chuchin, qui tenait les rames et s'étonnait de l'immobilité du patron.
Richard ne répondit pas. Il revoyait, à cette même place, une scène de leur vie à deux, la rivière éclaboussée d'une pluie d'orage, le ciel noir, la barque pleine d'eau, Lydie criant et riant sous l'ondée, un de ses petits souliers perdus, noyé dans le débarquement. Puis la salle d'auberge, longue et sombre, où des chandelles fichées dans des litres vides, éclairaient des têtes farouches de carriers, de tireurs de sable, des bergers surpris, eux aussi, par l'averse, et séchant leurs grands manteaux de laine devant le feu de fagot, où Lydie se chauffait toute mouillée, tordait ses cheveux, amusée de ses yeux de rute, de ses convoitises de faune tenues à distance par la carrure, les poings solides de son compagnon.
« L'eau est trop claire par ici, vieux Chuchin. Remonte au-dessus du pont !»
commanda Richard la voix altérée. Et sous la forte souquée du garde-pêche, le miroir qui reflétait la vieille auberge se brisa en 20 morceaux, chavirés au fond de la rivière, avec les souvenirs qu'ils évoquaient. La barque s'arrêta à l'île des Moineaux, merveilleux endroit pour jeter l'épervier, mais le patron n'y avait pas la main ce jour-là. À l'une de ses pointes, l'île s'échancre en un croissant un peu allongé, où, sur un fond de sable fin, dort une eau transparente dans l'ombre entrecroisée de 2 saules inclinés et touffus. Lydie appelait ce coin sa baignoire. Le bateau de Richard, en travers de l'entrée, avec sa voile large ouverte, ses saules en rideau des 2 côtés, elle prenait sa leçon de nage. Et pour sortir de l'eau, quitter son costume, c'était des fous rires, des petits cris de peur à la moindre frôlure, sur sa peau nue et rose, d'une branche de saule ou d'un vol d'insectes effarés. L'évocation de cette splendide chair ruisselante, moirée de froid et de lumière, de frissons et de rayons, la saveur soudaine retrouvée de ce beau fruit dans lequel il n'avait jamais osé mordre à son plein désir qu'une fois, enfin le navrement jusqu'aux larmes des joies perdues, des heures mortes, c'est tout ce que lui rapportait en 3 ou 4 coups d'épervier sa longue station à l'île des Moineaux.
« Une drôle de chose !» disait le soir à la cuisine le père de Rosine Chuchin. « Avec la figure triste qu'il a, M. Richard n'a pas cessé de chanter tout le temps de la pêche. »
En effet, pendant qu'il s'absorbait dans l'unique et cher souvenir, machinalement lui revenait un air de pergolèse que jouaient Maître Jean et Lydie, et dont tout haut il faisait les basses en mesure, accompagnant de ses « poum poum » le chant divin qui fredonnait dans sa tête et lui gonflait le cœur. Les jours suivants, ce fut la même obsession. Dans tous les coins et détours de la rivière, à n'importe quelle heure, par ces brumes matinales, si épaisses que son bateau n'avait pour se guider que le clapotis du flot contre les piles des ponts, ou le soir, quand le feu d'un chaland glissait mystérieux au ras de l'eau, et sur l'Yerre et sur l'Orge, ces jolis petits affluents de la Seine bordés de pentes vertes, de bouquets d'arbres et de corbeilles fleuries, de pigeonniers, de lavoirs, d'antiques abbayes transformées en moulins, partout lui apparaissait l'image amoureuse. Il la retrouvait sous sa rame, svelte et fraîche comme une plante d'eau, avec son teint d'un blanc verdâtre, impénétrable au soleil et aux halles. La forêt longeait la rivière. Richard se jeta dans la forêt pour échapper aux hantises de l'eau. Mais sous bois, au fuyant des taillis, au carrefour des routes vertes dont il connaissait toutes les fourches indicatrices, la vision le poursuivait. Lydie toujours. Et quand ce n'était pas Lydie elle-même, des rencontres, des circonstances pour lui rappeler son malheur. Un soir, rentrant d'une longue course à pied, comme il passait devant l'ermitage, des voix affectueuses et rugueuses crièrent « Hé, monsieur Richard !» « Saute-cœur, dit l'Indien, vieux forestier géant, redouté du braconnage, marié son fils, chef de rayon à Paris, avec une employée du même grand magasin. Au milieu de la cour herbeuse et délabrée de l'ancien cloître, une longue table réunissait des gardes à la livrée bleue de Grosbourg avec leurs femmes basanées, endimanchées de couleurs bruyantes, le fermier des Uzelles et sa famille, les deux musiciens de la noce et M. Alexandre, très chic, souliers vernis, pantalon clair, jouant du monocle avec la mariée, l'aideron adorable, habillé et coiffé en perfection. Richard dut entrer et s'asseoir un moment. Le dîner touchait à sa fin. Quelques verrées de vin blanc furent bues encore à la santé des mariés. Après quoi, sur un signal donné par le piston, on se plaça pour un quadrille aux dernières flambées du couchant. Richard et l'Indien, les coudes sur la nappe, causaient en regardant la danse. « Pour coquette, oui, monsieur Richard, je la crois très coquette, cette enfant-là, » disait le garde-chasse qui, de ses yeux étroits de lourd pachyderme, suivait la couronne blanche de sa bru. « Aussi, le garçon ne tient pas à ce qu'elle retourne au magasin, d'autant qu'elle a la poitrine un peu faible. Ils vont rester une saison ou deux à l'ermitage. Lui passera ses journées à Paris, au travail, et moi, je veillerai sur sa femme. Je n'ai pas eu de chance avec la mienne dans les temps, mais je vous réponds que celle-ci marchera droit. » « Je m'en doute, » fit Richard le sourire contraint et songeant à part lui qu'il aurait dû confier à l'Indien la surveillance de sa maison. La nuit envahissait le bois quand il quitta l'ermitage. Les oiseaux ne chantaient plus, le piston de la noce jetait seul ses notes rythmées et criardes, mais ce n'était pas cette musique qu'entendait Richard qui l'accompagnait de ses basses en arpège, de ses navrants « poum, poum, poum » semés au noir des allées. Découragé, il ne sortit plus. Il y avait au rez-de-chaussée du pavillon, près de la lingerie, ce qu'on appelait l'atelier. Richard, qui, depuis la fuite de sa femme, couchait au château dans sa chambre de garçon, voisine de celle de sa mère, se servait encore de cette pièce abandonnée pour y faire sa sieste dans le grand fauteuil de cuir, régler une note d'entrepreneur devant le bureau à cylindres de l'ancien notaire. Désormais, il se tint là constamment. De la fenêtre, comme dans son enfance, il regardait la route, s'amusait à y retrouver de vieilles connaissances, la brouette du cantonnier, le petit bossu marchand de chaussures, image naïve d'une espèce de grand jeu de loi, sur lequel le front de Lydie lui apparaissait, penché à côté du sien. Il se rappelait les peurs qu'elle avait des bœufs, les veilles de marché, et aussi de la charrette à foucard, où l'on transportait les noyés sous une serpillière, au temps des bains froids. Tout juste, la voilà qui remonte lentement de la Seine, cette charrette mystérieuse, et elle rapporte le valet de chambre du vieux Mérivet, retiré des herbes du bord où il s'est noyé avant-hier par accident. C'était lui le sacristain de la petite paroisse. Aussi son pauvre maître le suit en pleurant, plus courbés, plus étriqués qu'à l'ordinaire. Tiens, le père Georges avec sa longue trique, un morceau de pain sous le bras. Ce n'est pourtant pas le jour des pauvres aujourd'hui. Mais depuis quelque temps, le vieux vagabond ne quitte plus les uselles. Il semble guetter, attendre. On le trouve toujours errant autour du château ou couché contre une des grilles, vers la route ou vers la forêt. « Il ne dessoule plus !» dit Chuchin d'un air d'envie. Et les filles de la cuisine, lorsque le vieux routier approche entre les barreaux de leur sous-sol, son museau d'homme-chien et ses yeux larmoyeurs, lui crient en riant. « Tu as donc des peines de cœur, mon père Georges !» Par la chaude et lumineuse journée, c'est sinistre de voir cette pauvre larve humaine se traîner sur le grand chemin, s'accrocher aux arbres, aux murailles. D'où cela sort-il? Y a-t-il une patrie à ça? Quelle langue, quel argot massacre cette bouche sans dents? Et comment se trouve-t-il dans ce coin de Seine-et-Oise, ce vieux mendigo, aussi perdu, inconnu et lointain que s'il errait au centre de l'Afrique? Le voilà qui s'approche de la fontaine, essayant d'atteindre le gobelet et de le tenir sous le tombant d'eau claire. Ses mains tremblent, ses pieds glissent, son chapeau, un vieux feutre sans forme ni couleur, tombe à côté du gobelet renversé, ce qui fait rire aux larmes la jeune fermière d'en face, debout, gardant sa cour, les deux mains sur un énorme ventre de femme enceinte. Enfin, le misérable, après d'horribles efforts, parvient à boire à même le robinet. Et deux filets d'eau dégoulinent de sa barbe, tandis que le soleil chauffe son crâne pelé, rouge, crevé de grosses veines bleues. Et Richard se rappelle ce que Lydie lui disait une fois, que jamais elle n'avait pu voir un cheminot s'arrêter le soir pour boire à ce croisement de route et rester ensuite indécis, les yeux à terre. Non, jamais elle n'avait vu cette misère d'incertitude et d'abandon dans le jour qui tombait, sans songer que cet errant avait été tout petit, bercé, choyé par une mère tendre qui peut-être le regardait dormir en faisant pour lui les plus beaux rêves. Comment la femme qui parlait avec cette bonté, cette pitié sincère, avait-elle pu faire tant de mal à son mari? Il comptait donc moins pour elle qu'un vieux pauvre? À présent qu'il a bu, le père Georges se couche près de la fontaine, lourdement, par morceaux, comme s'il jetait ses membres à terre l'un après l'autre. Il tire son pain de dessous sa lévite trouée, effrangée, le pose sur une pierre près de lui, puis, fermant les yeux, mais seulement à demi, car il défend sa pitance contre les mouches et un tas de sales vermines ennemies de ses haltes de vagabond, il s'endort, une main sur son pain, l'autre sur sa trique en bois dur. Richard ne dort pas, lui. Fini les bonnes siestes de jadis. De l'autre côté de la route, embrasée de lumière, il regarde, il écoute le sommeil lourd de ce misérable pour lequel il se sent comme de la tendresse, parce que c'était le pauvre de Lydie, parce que c'est à lui qu'elle a parlé le dernier, à lui, dans cette main gercée et crispée, qu'elle a remis ce billet d'adieu que jamais Madame Fénigan n'osa montrer à son fils. Et tout à coup, il songe qu'à défaut de cette lettre, le petit bureau de sa femme, là-haut, dans leur chambre, en renferme peut-être d'autres aussi curieuses. Comment n'a-t-il pas eu plutôt la tentation d'y regarder? Le temps d'entrer chez Rosine pour lui demander la clé, de voir la silhouette de M. Alexandre enjamber la fenêtre de la lingerie ouverte sur le parc et de monter vivement le petit escalier de bois drapé de toiles de gêne à grandes fleurs, le voilà devant ce coquet petit meuble de marqueterie ancienne dont il fait sauter la serrure, grisé soudainement par cette odeur d'iris en sachet qui lui rappelle l'absente mieux encore que les airs de Pergolèse ou de Beethoven. Richard, de ses gros doigts fiévreux, furette, feuillette. Il a déjà trouvé des lettres de sa mère et de lui, du temps qu'il faisait sa cour à l'orpheline, quelques billets de sœur Martha pendant un séjour de la religieuse à Dublin, puis, très précieusement conservées, les deux notes de leur souper et de la nuit à l'hôtel, le soir de l'opéra. Pauvre Lydie, fallait-il que les occasions de plaisir lui eussent manqué? Maintenant, une grande enveloppe où tiennent une miniature en ivoire dans un écrin et trois lettres dont il a reconnu l'écriture fine et féline, l'écriture de Charles Exy. Dès les premières lignes, il tressaille, ses joues s'empourprent à l'infernal manège du prince pour décider Lydie au départ, bien lui montrer l'odieux de son existence entre le gros Poum-Poum et Madame Loire, la ramasseuse de pommes. C'est ainsi qu'il traite Richard et sa mère. Ah, le petit monstre, rien ne lui échappe, les manies, les rabâchages. Et comme il s'entend bien à exalter les vanités de la jeune femme, ses prétentions à la noblesse, sa fièvre de voyage et d'aventure. Comme il sait lui faire croire qu'elle étouffe sur ce morceau de scène entre deux écluses. Et Lydie, qu'on accuse d'avoir abusé de ses 18 ans. Il a 100 ans, ce jeune prince. En plus, l'expérience d'une vieille danseuse et d'un mauvais prêtre. Non, ce n'est pas elle qui l'a enlevé ni débauché. Ses lettres en font la preuve. Mais quel est donc, dans ce cadre d'or minuscule, ce babi râblé et superbe, tout nu sur les fleurs d'un tapis? À qui cet enfant? Le leur peut-être. Mais quand? Où? Comment? Elle n'a jamais quitté la maison. Et le pauvre mari, dont la paternité déçue fut le constant regret, est là qui fouille, interroge ses traits en miniature, ses boucles d'or frisées, les yeux de pierre froide de celui qu'il suppose un petit bâtard du monstre. Eh bien non, c'est le monstre lui-même. Une fantaisie du général, ce portrait de Charlexis à 2 ans. Une façon de dire aux dames extasiées devant la nudité du beau petit mâle « Voilà comme je l'ai fait !» Tandis que le prince, offrant à sa maîtresse ce médaillon de sa toute petite enfance, semble lui insinuer « Voilà comment je suis fait !» Au fond de l'écran, sous le portrait, une lettre plus intime, plus brûlante encore que les autres, donne ses explications. En la parcourant, cette lettre, Richard a pâli subitement, tout agité de mouvements nerveux et sentant au creux de l'estomac une horrible contracture. Ses yeux se troublent, cessent de voir, traversés, aveuglés d'éclairs intérieurs. Le poison de jalousie. Il ne la connaissait pas encore, l'atroce brûlure. Lydie, partie, perdue, il n'imaginait rien au-delà. Mais à présent, il pense à l'autre, à celui qui la lui a volé, à leur délire, à leur caresse. Et le pauvre jaloux continue à lire. Il ne voudrait pas, chaque mot le déchire, le brûle, mais il le faut. C'est comme un poison délicieux qu'une fièvre mauvaise le force à boire, à boire. Pour décider Lydie au départ, l'amant se plaint en des phrases ardentes que leurs nuits à Lisba sont trop noires. Il est là d'aimer à tâtons, dans le sombre, dans la peur, avec le souffle des chiens sous la porte. Sans doute, il y a l'attrait, le montant du danger. Oh, leur baiser d'hier matin sur le perron de Grosbourg, ce baiser en pleine bouche, si doux, si profond, que pendant 5 minutes, ils en sont restés tous les deux chancelants, les genoux fauchés. Mais c'est égal, leur première nuit dans la chambre du yacht vaudra mieux encore. Une nuit franche et blanche, sans peur ni pudeur, rien entre eux, rien sur eux. Des baisers et de la lumière. Ce sera comme dans la chanson malagaise où la belle catholique chuchote aux lèvres de l'amant « Éteins, oh, éteins, c'est assez du mal que nous faisons. Le péché des yeux, je ne veux pas le connaître. » Après, tout haut, dans l'emportement du plaisir, « Rallume, ami, rallume, le péché des yeux aussi, je veux le faire avec tous les autres. » Le malheureux s'est levé, marche par la chambre avec furie, agitant ses mains pleines de massacre. Ce qu'il voit d'abomination, ce qu'il remplit ses yeux d'horreur, qu'il ne pourra plus en arracher. « Ah, sale petit prince! Ah, bandit! Où l'a-t-il emmené? Où la cache-t-il? Si je pouvais savoir, les avoir là, me ruer dessus! Tiens donc, tiens !» Et du talon de sa botte, il écrase, il émiette le médaillon d'ivoire, croyant broyer de la chair nue et de la vie. Mais le poison est bu, mêlé à son sang, et ne lui laissera plus de répit. Au salon, le soir, en installant les pièces de l'échiquier sous la lumière tranquille de l'abat-jour, Madame Fenningan regarde son fils avec un sourire d'aise et de plénitude. « On est bien, dit, nous sommes heureux tous deux ensemble. » Si elle se doutait de ce qu'il voit, des scènes qu'il imagine.